Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, à votre santé, on s'occupe de tout et de votre santé tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. Aujourd'hui, vous en avez deux pour le prix d'un. La Dream Team est de retour sur Beurre FM. Ali Habibi, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Philippe. Du couple et de la famille. On vous a aujourd'hui, vous partez jeudi.
Oui, voilà. S'il plaît à Dieu.
Voilà.
Partirez jeudi
pour la Omra.
Oui.
Et on vous voit pas maintenant, la prochaine fois qu'on vous voit, c'est pendant le Ramadan.
Oui, en plus que le début, parce que je repartirai fin Ramadan pour Jérusalem.
J'ai pas vu votre planning là, dites donc là. Il va falloir qu'on cale vos émissions du Ramadan, Ali Habibi.
Les derniers jours, je suis pas là, je suis à Jérusalem avec vacances éthiques justement.
Mais vous arrêtez pas, Ali Habibi.
Bah, c'est la période.
Je vous ai connu, vous
avez vu. L'hiver, j'hiberne un peu.
Ouais.
Et là, c'est la période où on enchaîne les voyages, les conférences. Et, là, je reviens de Bordeaux, j'étais à Bordeaux. Vendredi, samedi, demain il y a un séminaire. Voilà, on enchaîne.
Bien.
Il y aura d'autres voyages en plus après le Jérusalem, on en reparlera.
Bon, merci de vous arrêter sur Beurre FM, c'est un plaisir, Alice, de vous avoir.
Il y a des voyages en Afrique qui se préparent aussi, au Comores et en Mauritanie.
Ah ben, dites donc. Maximilien Bachelard qui voyage moins, vous allez à Créteil Soleil très facilement, Maximilien, vous-même.
Ce qui est déjà un voyage, hein, Créteil Soleil.
C'est un voyage, on peut retrouver beaucoup de choses, beaucoup de cultures,
bon.
On peut être influencé.
Docteur en psychologie et psychothérapeute, vous pratiquez dans la verdure d'ailleurs, c'est un choix.
Exactement, je suis en plein milieu des champs et en même temps j'ai mis 51 minutes pour venir, là on est aux portes de Paris, donc ça va. Voilà.
Et à vol d'oiseau, c'est beaucoup moins quand on y pense.
Exactement. Donc, quand j'aurai un hélicoptère, vous verrez, j'arriverai plus vite.
Voilà. Bien. Je rappelle que vous publiez l'approche intégrative en psychothérapie.
Ouais.
Voilà. Donc, une bonne lecture pour ceux que ça intéresse. Alors, accro aux écrans, quelle place pour les écrans chez les enfants? Les écrans sont devenus la première occupation des enfants et des adolescents, bien avant l'école. Alors, eux, de toute façon, ils sont nés avec Internet, alors que c'est pas notre cas, nous, les parents. Je vois toujours, tous les méfaits que ça, mais finalement je vois jamais ce que ça leur apporte d'être avec les écrans. On n'en parle jamais de, finalement, ça a peut-être des qualités pour eux.
Alors oui, ça a des qualités, et puis on pourra en citer quelques-unes, mais c'est vrai que on a quand même substitué des supports qui n'étaient pas forcément à substituer, je pense, le fait de se rendre compte que les enfants n'arrivent pas forcément à écrire, à utiliser leurs mains, ont des difficultés après dans la motricité fine, parce qu'en échange, ils savent utiliser un iPad, un iPhone ou quoi que ce soit, pose question. Donc oui, ça a un intérêt, mais moi j'ai pris le parti d'être un peu de la vieille école et de dénoncer ce qui peut poser problème là-dedans.
Mmh.
L'écran n'est pas forcément problématique en lui-même, comme pour les jeux vidéo, on a voulu faire croire que les jeux vidéo amenaient la violence, ce qui n'est pas le cas, ça ne crée pas de la violence en soi. Mais,
ou alors que ça rendait les gosses épileptiques, enfin il y a quand même toute cette mode-là qui disait que...
Il y a quelques risques, mais c'est assez fin finalement, et la difficulté n'est pas tant là, c'est surtout en quoi on va utiliser les écrans pour faire autre chose qu'on devrait faire. Par exemple,
mais ça n'a aucun intérêt pour les enfants, par exemple, dès leur plus jeune âge, d'être agiles au niveau des capacités cognitives, par exemple. Moi, je les trouve super dégourdis aujourd'hui, les gamins. Quand je les vois, je vais vous dire.
Ça dépend pourquoi, parce que par rapport à ce que vous savez faire, vous ne savez pas. Mais est-ce que c'est quelque chose d'indispensable à votre développement à cet âge-là? C'est surtout ça la question, en fait.
C'est-à-dire qu'on trouve qu'ils sont dégourdis parce qu'on a du mal. On a eu du mal peut-être à passer la transition justement du tout numérique. Et quand on voit que des enfants de bas âge y arrivent très très facilement, intuitivement presque.
Mais c'est intuitif, voilà. Moi c'est ça qui me...
Ça peut nous impressionner en se disant c'est super, il est doué mon enfant, il sait utiliser l'iPad alors qu'il sait pas parler encore.
Qu'est-ce qu'ils sont intelligents.
Alors là il sait utiliser la tablette alors qu'il sait pas parler, etc.
C'est ça, complètement.
Mais c'est simplement parce qu'ils ont grandi là-dedans. Parce
oui.
que vous savez, moi me mettre à parler chinois c'est très compliqué, mais vous
c'est
discutez
ça.
Avec un chinois, il le fait sans réfléchir. Donc après, est-ce que ça veut dire que c'est bon pour la personne, ça c'est un autre débat tout de même.
Oui. La question pour moi c'est pas de savoir si c'est bon ou pas, c'est qu'on je vois énormément d'articles et de réflexions, d'études sur ce qui vont dans un sens que c'est mauvais pour eux. Est-ce que finalement il y a des choses que ça leur apporte que nous, notre génération, n'avons pas eu, tout simplement, ou pas?
Je pense que c'est un peu tôt pour savoir vraiment ce que ça leur apporte. Il faudra encore un peu de recul pour comparer et faire vraiment des études appuyées pour voir vraiment l'apport Alors s'il y a un apport cognitif ou s'il y a un apport intellectuel ou un apport, je sais pas, dans autre chose.
Les études ne montrent pas ça.
C'est ça. Pour le moment,
les études sont plus en plus
critiques.
Comment dire, critiques, mais surtout montrant qu'en fait, on pense que, et quand on fait des études sérieuses, on se rend compte que c'était plus idéologique, c'est-à-dire que ça faisait plus plaisir aux adultes, on avait plus l'impression de les rendre autonomes ou plus réactifs, mais en fait, d'une manière globale, c'est pas une bonne chose, en fait.
Ça rend pas plus intelligent, en fait.
Voilà.
Ça va plutôt vers l'inverse.
Si ce qu'on appelle les digital natifs, ceux qui sont nés avec la modernité, si un enfant, dès son plus jeune âge, il sait utiliser une tablette, j'allais dire un magnétoscope, c'est pour dire, ou un...
Oula! Ah ouais, ou changer d'émission,
un ordinateur ou le téléphone de ses parents, si un enfant sait le faire, c'est pas une preuve d'intelligence.
Non.
C'est ça que vous voulez nous dire.
Oui, c'est pas une preuve d'intelligence. C'est pas du tout même une preuve d'intelligence, dans le sens où, comme disait tout à l'heure Maximilien, quand on est un enfant, on apprend selon l'environnement dans lequel on se situe. Et intuitivement, on apprend des choses, voilà, on a des capacités. Mais ça fait partie de l'intelligence, ça fait partie des capacités qu'on a de manière innée. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, les études vont vers l'inverse de ce qu'est l'intelligence, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a du retard, que...
C'est-à-dire qu'officiellement, depuis quelques mois, dans le monde, on a pu constater que pour la première fois, le quotient intellectuel est en train de descendre.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a fait que d'être intelligent mondialement et que là, officiellement, on a atteint un pic et c'est en train de descendre. Et donc, on pourrait se dire, bah, finalement, c'est logique puisqu'on a de plus en plus d'éléments autour de nous. Mais j'ai envie de vous faire l'analogie avec Facebook. C'est sûr qu'à l'époque, vous aviez peut-être une vingtaine d'amis, que vos enfants, ils en ont environ 800. Mais vous savez bien que c'est pas comparable, en fait, que les 800 amis virtuels vont pas remplacer quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, la tablette dans la main, elle va pas forcément remplacer, voire même, elle va obstruer certaines choses. Elle va pas permettre certaines choses. Le fait d'avoir un enfant de 1 an qui est sur une tablette, on peut se dire, oulala, il est habile, il a compris le système, il s'ennuie déjà, ça c'est le truc que les parents nous disent souvent, on lui a acheté une tablette pour son âge, il sait déjà y jouer, donc il passe à une autre tablette, mais moi j'ai envie de dire, ce temps-là, il aurait pu être utilisé à autre chose. Et la thématique de l'émission, elle revient aussi à notre pratique.
On verra ce que ça génère chez vous, mais regardez, même les parents doivent donner l'exemple. Nous, on va prendre, ne serait-ce qu'on combien est-ce que vous connaissez aujourd'hui de numéros de téléphone par cœur? Alors que moi, je me souviens qu'avant, les numéros de téléphone, on les connaissait tous par cœur.
Oui, mais encore une fois, là, si on veut un peu défendre et qu'on va un peu dans le sens de la question, Philippe, en essayant de trouver des intérêts à laisser des enfants devant des écrans, des tablettes, etc. Le seul argument qui pourrait être un peu entendu, c'est de changer un peu de paradigme, c'est-à-dire de changer le paradigme de qu'est-ce que le développement, un développement convenable, et là de changer vraiment tout notre regard de qu'est-ce qu'un bon développement. Si un bon développement, c'est d'apprendre à lire, à écrire convenablement, à compter, à réfléchir, à analyser, etc. On pourrait basculer les choses en se disant, bah, là, on n'a plus l'utilité d'apprendre des numéros par cœur. Et vu qu'on n'a plus l'utilité, si on est dans une optique de, ok, bah, on s'adapte et on utilise les outils numériques comme étant
des aides
ou des sous-critères, le problème, c'est que, après, au niveau moral, ça posera un souci, parce que c'est des aides sur le,
c'est une dépendance aussi, quoi.
Et derrière, on rentre dans une dépendance, et là, si la robotique ou si, voilà, les intelligences artificielles prennent le pas, on va perdre, on rentre dans un débat philosophique, mais on perd notre liberté. Mais si on rentre dans un autre paradigme en se disant, bah oui, on perd notre liberté, mais en même temps, tout est facilité, tout est simplifié, j'ai plus besoin de savoir compter, de savoir écrire, d'apprendre des nouvelles langues, etc. Si on est dans ce paradigme-là en se disant, il n'y a plus l'utilité d'eux et c'est plus nécessaire, alors là, ceux qui vont défendre les écrans à outrance vous diront, bah, c'est très bien.
À quoi ça sert de savoir lire un plan aujourd'hui alors qu'on a des GPS?
Ça sert à pouvoir se débrouiller quand on n'a plus le GPS.
Voilà.
C'est-à-dire que moi, en consultation, j'ai demandé à tous les gens qui viennent de me remplir une petite fiche de renseignement, comme un petit vieux, tout simplement parce que quand j'ai fait tomber mon portable qui est tombé de ma poche, sans non plus tomber du 8e étage, il était complètement foutu. J'en avais pour 300€ à réparer ce truc-là, donc j'ai pas voulu. Donc j'ai racheté un portable de BTP qui tient la route et les gens remplissent la feuille. Parce que c'est sûr que quand on perd son portable, si on n'a pas tout mis sur un cloud qui est possiblement piratable, on est embêté. Donc c'est une question sociétale qui renvoie à la question de la dépendance, de l'autonomie également. Et après, vous voyez, moi quand j'ai des étudiants en licence de psycho ou notamment des travailleurs sociaux en études, etc., qui confondent ENT et ES, qui ont 18, 20, 25 ans, qui n'arrivent pas à mettre un point, une phrase là où il faut, qui n'arrivent pas à avoir une motricité fine qui fait qu'on peut au moins les lire un minimum, qui savent pas accorder un verbe, mais qui savent utiliser une tablette deux fois plus vite que moi, ça me pose aussi question. Alors après, c'est quel est votre idéal, qu'est-ce que vous en pensez? Et plein de gens, même des adultes, commencent à se dire, oh, bah, tout ça, de toute façon, c'est un faux problème, puisque comme il y aura des écrans partout, on n'a pas besoin de savoir écrire comme dans le dictionnaire. Bon, moi, personnellement, je trouve ça gênant. Je trouve ça embêtant, puisque c'est sûr que quand je reçois une candidature pour un stage ou ce genre de choses et que je vois 8 fautes dans la lettre, j'ai pas envie de rencontrer la personne, quoi. Et ça, c'est le choc un peu générationnel qui se prépare, et les écrans intensifient ce problème, je pense.
Les écrans sont donc devenus la première occupation des enfants et des ados, bien avant l'école. On va essayer de voir déjà quelles sont les conséquences de l'exposition des enfants à ces écrans. Qu'est-ce qui se passe ?
On a des difficultés à différents niveaux. Alors déjà, par le contenu de ce qu'il y a dans l'écran, ça peut poser une difficulté, mais également par la nature du phénomène en soi. C'est-à-dire que quand vous regardez l'écran, on sait que plus un jeune regarde l'écran, moins il va dormir, plus il va adopter de mauvaises postures, moins il va faire d'exercices physiques, moins il va être en interaction, etc., etc. Et en termes d'études, on a pu montrer que il y avait des difficultés attentionnelles chez les enfants à mesure qu'ils regardaient la télévision. Ils étaient plus à même d'avoir des troubles de l'attention. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que moi, les enfants, à la base, c'était pas une spécialisation que j'avais. Mais il se trouve qu'au cabinet, j'ai reçu de plus en plus de jeunes avec des profils, on va dire, assez atypiques, un peu particuliers. Et moi, je me posais pas la question du tout des écrans, puisque le souci avec les écrans, c'est que c'est tellement partout, et c'est tellement un geste anodin.
Parce que là, aujourd'hui, on parle plus de la télévision, hein, Maximilien.
On parle des écrans.
On parle des écrans, voilà.
Donc, c'est le fameux portable. Vous avez qu'à vous balader une heure dans Paris. Vous allez forcément voir.
La tablette, aujourd'hui, c'est la tablette.
Mais prenez le métro, vous allez voir un enfant qui se met à hurler, qui attrape le portable de sa mère alors qu'il a un an et demi, deux ans, trois ans, dix ans, ce que vous voulez, et puis qui est calmé à ce moment-là parce qu'il est captivé par l'écran. Et les mamans vous disent en souriant, oh, c'est mignon, vous avez vu comme ça le calme, et en plus il sait très bien s'en servir, et puis elle nous vante aussi sa capacité à pouvoir jongler entre YouTube et Facebook. Bon, moi je suis très inquiet.
On peut prendre un exemple, là, vous amenez votre gamin au bureau par exemple pour la journée, si vous voulez avoir la paix,
vous le mettez
sur une chaise et vous lui donnez un écran et vous avez la paix toute la journée.
Exactement, donc c'est quelque chose d'assez facile, et ce qui fait, enfin, en termes de biais cognitif, c'est-à-dire que les parents ont tendance à se raconter quelque chose, et notamment ils se disent c'est ludique parce que il apprend des choses, on lui met des jeux, il apprend à compter, il apprend à faire ci, il apprend à faire ça. Mais ça a un effet, tout ça, de rester sur un écran pendant des heures. Et donc, on a notamment la question des troubles attentionnels. Les enfants ont du mal à être attentifs, après à rester captés en cours.
Pourtant, ils sont calmes. Enfin,
ils sont calmes devant l'écran.
Devant l'écran, ils sont attentifs.
Mais quand il n'y a plus d'écran.
Bah, vous savez, vous pouvez aussi dire, moi, quand je vois un fumeur dehors et qu'il fume, il est très apaisé, quoi. Et bien, retirez-lui son paquet de cigarettes. Voilà. Laissez-le dans un avion pendant 5 heures de vol et puis regardez comment
il réagit. Quelqu'un qui se fait un shoot d'héros, et ben il va être très calme.
Voilà. Donc vous pouvez me dire, ça le calme. Oui, vous avez raison.
Il est très détendu.
Un alcoolique aussi, vous savez, au bar, il peut être très apaisé, très agréable. Voilà. Et mais en même temps, l'alcool n'est pas forcément. Non, mais vous comprenez ce que je veux vous dire.
Venez dans le sud, chez moi, vous allez voir, chez Tonton, Ricard Maître, vous allez voir comment ils sont apaisés, les gars.
Mais la difficulté, en tout cas, c'est qu'on a créé une dépendance. Et évidemment, tout est une question de dosage. Donc moi, mon idée, certainement pas de supprimer les écrans, mais de suivre notamment les recommandations du nouveau carnet de santé qui, alors j'ai toujours un doute, je sais plus si c'est 2 ou 3 ans, mais je crois que c'est 3 ans, depuis une ou 2 semaines, on a demandé, il est recommandé
3, 6, 9, 12.
Mais c'est-à-dire qu'on a recommandé aux parents de ne pas exposer leur enfant aux écrans.
Pas du tout. Donc la télévision est à bannir avant 3 ans, les consoles de jeux pas avant 6 ans, Internet c'est pas avant 9 ans, et les réseaux sociaux pas avant 12 ans. Ça c'est les... Voilà, c'est les...
Et le problème, c'est qu'on vous dira, et donc moi j'ai ces difficultés, je sais pas si tu as ça, Ali, mais en consultation, on vous dit, donc l'exemple typique que j'ai, c'est, écoutez, vous êtes pas à notre place, monsieur, à 23h, il prend la tablette de son père, et si on vous le retire, il casse tout. Il hurle, il est ingérable, il fait une colère, et vous êtes bien mignon, vous, le psychologue, dans votre bureau, mais si vous étiez là, vous verriez qu'il est ingérable. Donc en gros, on lui fait son shoot d'héroïne, quoi. En tout cas, on le laisse avec son addiction.
On achète la paix.
Et oui, on achète la paix. Et donc les parents, je suis bien d'accord avec eux, je leur fais le même constat qu'eux, je leur dis, ah bah j'imagine bien. Mais le problème, c'est qu'il va falloir déconstruire quelque chose qu'on a laissé un peu sous le tapis, quoi. Et donc on pense qu'on a eu la paix, on a pensé que c'était éducatif, et puis ça vient combler aussi les absences. C'est-à-dire, je vous laisse un objet.
Pendant ce temps-là, nous, on peut faire autre chose.
Exactement. C'est-à-dire que maman, elle repasse, elle est fatiguée, elle en a un petit peu marre, elle s'occupe de la cocotte et puis ça cuit dans la cuisine. Elle a pas envie d'avoir un enfant qui lui hurle dessus, qui saute partout. On lui donne un écran. D'un seul coup, le niveau sonore, ça baisse et tout va beaucoup mieux. Et l'enfant est apaisé aussi. Donc on pense, on se conditionne finalement, on est renforcé par une situation qui est quand même plus agréable à vivre.
Mais la réelle difficulté va être justement pour ces personnes qui ont pris l'habitude justement de donner des écrans à leurs enfants, et le fait de déconstruire, ça va être compliqué.
Ça prend du temps,
c'est un travail difficile.
Et ça, j'ai envie de dire, tout le monde le fait, donc en fait, on fait comme tout le monde.
Non, mais le fait que ça a déjà été, que ça a déjà eu lieu et qu'il y a eu une habitude, le fait de changer justement ces comportements, c'est-à-dire que ça va vraiment être pour ces profils-là où ça va être compliqué. Au niveau préventif, c'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui viennent d'avoir un nourrisson, le fait qu'ils entendent ce discours-là et qu'ils mettent justement en place des mesures qui les empêchent de tomber dans ce piège-là, pour eux, ça sera un peu plus simple quand même.
Quelle place pour les écrans chez les enfants? On en parle aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr intervenir si vous-même vous êtes confronté à un enfant dont vous imaginez aujourd'hui qu'il est surexposé aux écrans et qu'il a du mal aujourd'hui quand on lui enlève ses écrans. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et la place des écrans chez les enfants, ça interroge les parents. On en parle aujourd'hui avec Ali Habibi, thérapeute de couple et de la famille, et puis Maximilien Bachelard, docteur en psychologie et psychothérapeute. Quelles sont les conséquences, donc, tous les deux, de cette exposition des enfants aux écrans? Vraiment, pourquoi, finalement, ça pose des questions aux parents?
Alors, on a, comme je disais, la question des troubles attentionnels. Les enfants ont du mal à se fixer, à concentrer leur attention en continu sur quelque chose. Donc ça pose problème, et on sait bien que c'est un mouvement général. Les enfants ont quand même plus de mal à se focaliser sur quelque chose qu'avant. Il y a la question du langage également. On sait qu'il y a un lien entre l'exposition aux écrans et les retards de langage.
Mais pourquoi?
Alors, entre 8 et 16 mois, chaque heure quotidienne de vidéo se traduit par un appauvrissement du lexique de l'ordre de 10%. Donc je répète, entre 8 et 16 mois, chaque heure de télévision, ou en tout cas d'écran vidéo, va se traduire par un appauvrissement du lexique de 10%.
C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à parler en regardant des écrans, c'est ça?
Exactement.
Et on n'apprend pas des mots et on n'enrichit pas son vocabulaire.
Eh ben exactement, parce qu'on le pense, mais en fait la difficulté, c'est que plus vous êtes dans les écrans, plus il y a une chute des interactions intrafamiliales, des interactions verbales. C'est-à-dire qu'on parle encore moins à la maison quand on reste 5 heures devant un écran. Mmh. Exactement. Et c'est comme ça que va se développer le langage. C'est pas en étant passif devant un écran et en ne parlant pas.
Regardez chez vous, hein, c'est simple. Quand vous regardez tout le membre de la famille, mais tout le monde est sur ou son téléphone, sa tablette, son ordinateur, et les gens se parlent moins, on va dire. Mmh. Et dans la voiture, maintenant, il y a même des vidéos. Donc voilà, donc les gens n'écoutent même plus la radio tous ensemble, ce qui les faisait parler.
Dans une famille française, il y a environ 6 heures d'exposition journalière, ce qui nous ramène à 40% de réduction du champ lexical. Parce qu'il n'y a pas assez d'échanges, en fait. Et le langage, c'est pas simplement un enfant se met devant un écran et puis il apprend et puis c'est tout. Mmh. Il suffit pas d'écouter pour pouvoir parler, ça suffit pas.
Mais un enfant qui est habitué aux écrans, si on lui donne le choix de jouer avec ses parents ou un écran, qu'est-ce qu'il va préférer?
Eh ben, il peut très largement préférer jouer avec ses parents, même si ça paraît contre-intuitif, mais c'est parce que on a tous trouvé cette facilité. Mais vous savez, c'est pas bien compliqué, il suffit de voir ce que font les parents. Moi, je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire en disant que moi je suis au-dessus. Moi aussi, j'utilise des écrans, mais je pense qu'il faut pouvoir se demander ce que les parents sont en capacité de tolérer, quoi. Et est-ce que les parents peuvent amener à la créativité un enfant? Parce que la question qu'il y a derrière, on y reviendra certainement, c'est la question de pouvoir tolérer l'enfant. Ennui et de pouvoir à ce moment-là aussi découvrir une certaine forme de créativité. C'est-à-dire que c'est quand même facile de caler un enfant comme on mange du 4 quarts pour pouvoir avoir la paix.
Mais justement, cette facilité que les parents ont, elle amène à un autre souci, c'est la difficulté d'accompagner, d'éduquer un enfant aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes isolé, que vous êtes un parent, vous êtes deux parents, et que vous devez éduquer un enfant, et que vous travaillez en parallèle, et vous devez vous occuper de mille et une choses, cette facilité devient peut-être un moindre mal ou quelque chose qui est peut-être une des seules solutions que vous avez ou une des rares solutions que vous avez pour pouvoir soit vous reposer un peu, soit essayer de calmer un peu l'enfant. Mm-hmm. C'est-à-dire que certes les écrans sont un problème, mais aujourd'hui pour certains parents c'est une solution. C'est-à-dire c'est un problème qui devient une solution parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions.
Et en même temps, c'est dramatique d'entendre ça.
Non, mais c'est ça. Ouais. Mais la réalité, elle est là aussi. C'est-à-dire que le fait que des parents soient isolés et qu'ils travaillent tous les deux et qu'ils doivent s'occuper, je sais pas moi, de 1, 2, 3 enfants, ça reste des êtres humains qui sont juste dépassés par ce qu'ils vivent et qui, malgré tout, font mieux. Et c'est-à-dire que si on leur propose pas des alternatives, des choses qui pourraient venir répondre à la problématique d'un développement sain et viable pour l'enfant, tout en prenant en compte eux, c'est-à-dire leur réalité de terrain et leur fatigue et leur disponibilité et leur énergie, c'est pas forcément évident.
Et là, vous avez vu comme ils sont sages, parce que les enfants, souvent, quand ils sont dans les écrans, ils font pas de bruit. Donc là, tu me dis, hey, ils sont sages, j'ai vu ça.
Bah, oui.
Et donc, là, vous êtes content parce que vous obtenez ce que vous voulez, c'est-à-dire la paix. Donc,
je suis pas en train de dire que c'est bien de calmer l'enfant pour après se reposer et en profiter. Mm. C'est pas dans le sens du profit et je le calme et je m'occupe pas de lui parce que je démissionne. Je parle vraiment d'une catégorie de parents qui veulent être là pour l'enfant, mais qui n'y arrivent plus ou qui n'y arrivent pas suffisamment.
Alors, Leïla est avec nous au standard au 01 53 48 3000. Bienvenue, Leïla.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Leïla.
Moi, je vous appelle parce que je suis concernée par le sujet et qu'aujourd'hui, je me pose des questions quand je vois que mon fils, il n'arrive plus trop à jouer, hormis quand je lui lève les écrans, en fait. Donc déjà, je voudrais dire que quand il est rentré en petite section, il a 4 ans aujourd'hui, il savait déjà compter, il connaissait les couleurs en anglais grâce à Dora et en français, et que la plupart des choses, moi, c'est vrai que je lui ai pas appris autant de choses.
Thank you, Dora l'exploratrice.
Voilà, ben écoutez, c'était juste pour dire que lui, par contre, il savait plein de trucs par rapport à Bob le train qui apprend les planètes, il les connaissait déjà, alors que moi, je lui ai pas appris tout ça. Bon, c'est pas pour me justifier, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte qu'il arrive plus à jouer quand je lui enlève le téléphone.
Bah, c'est-à-dire qu'au départ, on se dit, il cumule des choses et c'est super, et c'est vrai qu'il va cumuler des choses, mais la question, c'est pas de savoir combien il veut cumuler, c'est comment vous allez organiser ça au fond de vous, et puisque ça va vous servir, puisqu'à côté, ça va pas créer des sources d'angoisse. Parce que vous l'imaginez peut-être un peu angoissé ou démuni devant des mi-cadeaux, devant un truc à construire, c'est peut-être ça aussi. Hein.
Non, moi je suis très contente quand je le vois qui joue avec ses petits bonhommes.
Oui, donc il y arrive.
Voilà, bon. Mais avant il le faisait beaucoup, beaucoup plus souvent.
Ouais.
Maintenant qu'il a compris comment se débrouille l'iPhone et qu'il va sur les YouTube Kids, qu'il regarde plein de trucs, il me demande souvent, il se lève le matin, il me demande « Maman, ton téléphone ?» Alors qu'avant, il ne faisait pas. Et c'est là où je commence à m'inquiéter. C'est que quand je lui dis, non, Caïs, là, tu n'auras pas le téléphone, tu vas jouer dans la chambre. Il va jouer une demi-heure et revient à la charge.
Mmh.
Et en fait, maintenant, comment je peux faire pour enlever ça, justement?
Moi, je me suis...
C'est addictif, hein, c'est ça. En fait, finalement, il y a une forme d'addiction.
Oui. Et c'est ça qui me fait peur. C'est qu'avant, je ne trouvais pas qu'il était autant accroché que maintenant, en grandissant, il commence à l'être. Et je m'en rends compte.
Pour ma part, j'aurais pas tendance à attendre l'écran comme une récompense, et encore moins comme une punition, puisqu'ils ont du plaisir à faire ça. Mais peut-être se demander si on pourrait pas délimiter dans l'espace, dans la maison, ou dans le temps, l'utilisation. C'est-à-dire que de telle heure à telle heure, on peut utiliser les écrans. Et puis les parents font pareil, parce que les parents peuvent se prêter un peu au jeu, de déposer leur téléphone dans une pièce sans forcément l'avoir avec eux quand ils vont aux toilettes, ou H24 avec eux, d'accord. Et d'avoir les yeux dessus. Parce qu'un enfant, ça regarde ce qui se passe autour de soi. Et si vous avez l'habitude d'être beaucoup sur l'écran, par exemple, ça peut être compliqué. À l'école, maintenant, on distribue des tablettes, on investit des millions et des millions pour mettre des emplois du temps électroniques sur les murs. Enfin, tout ça est complètement contre-productif. Et j'ai un ami, Antoine, là, qui est agriculteur dans mon village, qui me disait, j'ai passé mon temps à restreindre mon enfant avec avec les écrans. Et puis en fait, ils ont passé leur temps devant la télévision à la première semaine de rentrée à l'école pour apprendre des cours. Donc l'institutrice était assise pendant que les enfants regardaient la télé. Et il m'a dit, c'est ça l'éducation. Il était un peu, voilà. Donc je pense qu'il faut se demander qu'est-ce que vous avez comme comportement par rapport aux écrans. Et puis peut-être amener ça de manière ludique aussi, parce que si on voit ses enfants, si on voit ses parents s'amuser avec nous à des jeux manuels très simples, à partir de ça, on va commencer à avoir du plaisir. L'écran, c'est une facilité quand même, et on le sait tous, on tripote son portable souvent quand on sait pas quoi faire, on s'ennuie, comme la cigarette, comme manger dans le frigo, c'est pareil, ça vient combler. Et donc, il y a des gens qui font défiler des écrans pendant un quart d'heure, la bouche un peu ouverte et puis les yeux dans le vide, parce que ça occupe, en fait. Plutôt que
c'est même devenu une habitude, je crois que les gens réfléchissent même plus.
On se tripote le portable, moi, c'est ce que je dis, quoi. Oui. C'est, on fait même pas gaffe, on...
C'est joli comme expression.
Voilà. Oui, c'est... Alors, je sais pas si on a répondu à votre question, mais en tout cas, si vous avez du plaisir avec lui, ce sera une bonne chose. Excusez-moi.
Combien de temps, moi, je peux le laisser maintenant? Enfin, je vais pas lui enlever complètement, mais je peux... Est-ce que 1 heure, 2 heures par jour, combien de temps? Un enfant de 4 ans?
Déjà, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut... j'aurais pas vraiment d'horaire à vous donner, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est d'éviter ça le soir. Absolument. 2-3 heures avant, il faut plus d'écran. C'est terminé. Parce que vous allez pas lui donner une bonne habitude pour appréhender le sommeil. Parce que c'est pourvoyeur de problèmes de sommeil, également, les écrans. Notamment parce que la lumière bleue qu'on reçoit vient complètement déréguler toute la physiologie du corps. Donc, si vous pouvez éviter d'envoyer votre enfant chez le psy ou le médecin dans 2 ans parce qu'il dort mal, ce serait bien. Donc, il faut déjà lui supprimer les écrans dès qu'il commence à faire nuit. C'est terminé, quoi. 18h, 19h, on arrête les écrans.
Mais alors, à 4 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il y ait une bonne durée d'utilisation pour un enfant de 4 ans?
Je sais pas si on peut dire une bonne ou une mauvaise. Après, il faut pas que ça soit, bien évidemment, excessif. Il est jeune. 4 ans, c'est...
4 ans.
4 ans. C'est-à-dire qu'il faut, aussi comprendre la représentation du temps pour un enfant de 4 ans. C'est-à-dire, une heure pour nous, c'est pas une heure pour un enfant de 4 ans.
Oui, bien sûr.
Et l'écran, et avoir. Alors, il y a un autre truc aussi qui est important. On est en train, finalement, de faire le sujet de différentes manières. C'est quand même pas pareil d'avoir son iPhone sur son lit à regarder YouTube dans sa chambre que de regarder la télévision avec papa, maman et de discuter de ce qu'on vient de voir. Parce que on parle pas beaucoup de ça aussi, mais ça pourrait être une activité ludique que de regarder un écran et on pourrait en parler aussi plutôt que de laisser l'enfant seul, pris par ses émotions. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui, après, parfois sont terrorisés par un truc très bête, très simple, mais ça fait des heures qu'ils sont captivés. Donc il ne faut pas que ça devienne une espèce d'hypnose négative, angoissante, où l'enfant tombe dans un puits d'images et puis rééteint son écran et puis va se coucher. Donc vous, votre pouvoir, il est à trouver du plaisir dans autre chose que l'écran et puis aussi de pouvoir le cadrer. Parce que le problème des écrans, c'est qu'ils sont accessibles H24 à n'importe quelle heure. C'est comme la télévision, vous allumez, il y a toujours une présence quoi qu'il arrive.
Ouais,
et donc les enfants, ça les dérégule en termes de représentation du temps. Comme les choses ne s'arrêtent jamais, on n'a pas de début ni de fin. Voyez. Et donc ils sont captivés par quelque chose qui s'arrête pas. Et je pense que c'est important que vous puissiez lui apprendre, par exemple, que d'ici un quart d'heure, on va éteindre la télévision, et puis faire en sorte que lui, de lui-même, il l'éteigne, plutôt que vous veniez l'arrêter, l'arracher, l'extraire de ce sur quoi il est captivé.
La punition, quoi.
Voilà. Après, ça devient une punition, c'est-à-dire qu'après vous allez arriver, puis il va cacher son portable, et puis il va être triste, quoi.
Non, moi surtout j'aimerais qu'il rejoue comme avant, quoi. Parce que là, quand je lui enlève, je lui dis quand là c'est le numéro 3, tu me rends le téléphone, donc il le fait. Mais par contre, au bout d'un moment, il revient me demander.
Pourquoi vous lui donnez votre téléphone quand même? C'est intime.
Il y a beaucoup de parents qui font ça, mais là.
Mais sur YouTube, tu peux pas forcément bloquer les contenus, donc je sais pas. Enfin, moi je trouve ça un peu compliqué.
Non, il y a YouTube enfant, là, avec Twitter. Donc il joue ça, il zappe ses trucs. Mais je sais que c'est une mauvaise habitude. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais lui enlever.
Eh ben une habitude, il faut en avoir une nouvelle. Il faut que vous commencez. Il va falloir être un peu créatif de votre côté. Moi je suis sûr que vous allez y arriver. Pensez à cette histoire de plaisir et cadrez-le sans se mettre à hurler, simplement en souriant aussi, en disant écoute, d'ici un quart d'heure on va faire autre chose. C'est pas la même chose que d'ici un quart d'heure je t'arrache le portable si tu me le rends pas, quoi.
Oui, c'est sûr.
Vous voyez. Donc aussi dans la formulation on peut amener à ça.
Mais ça oblige les parents à être créatifs. Et les parents, parfois, ils ont du mal à être créatifs.
C'est toujours l'excuse du manque de temps. Hein. parce qu'on a le petit frère derrière, parce que, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que comme ça où on peut les occuper.
Et comme vous dites, Maximilien, les écrans ne remplacent pas les parents.
Voilà. Ouais, c'est vrai.
Exactement, parce que comme je le disais, le développement du langage se fait par l'interaction. Et donc, on aura toujours besoin d'un être humain.
Ça, vous en pensez quoi des dessins animés éducatifs ou comme je vous disais, par exemple, Dora lui a appris les couleurs.
Oui, bah vous pouvez lui apprendre les couleurs c'est aussi, peut-être.
Oui, bien sûr, mais vous en pensez quoi, que ce soit des chats animés qui...
De toute façon, ça a toujours plus ou moins existé. Et puis avant, c'était aussi les bouquins qui nous apprenaient les choses.
On avait un rue Sésame, nous.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours quelqu'un à la maison. Après, avec le développement de la société, on a les deux parents qui bossent. Et puis maintenant, c'est les écrans qui prennent le relais. Donc, je
ça
pense...
Ça fait peur.
Bah oui, ça fait
non, mais est-ce que
peur.
Est-ce que vous, parce que je lui ai posé à peu près les mêmes questions tout à l'heure. Et là, vous m'avez dit que de toute façon, si c'est pas la télé qui lui avait appris, ou YouTube, ou Dora, c'est quelqu'un d'autre qui lui aurait appris. Et il aurait pu l'apprendre ou dans des livres ou dans d'autres moyens, en fait. C'est ça qui est important de dire.
Oui, en fait, moi quand il est rentré à l'école, qui savait déjà compter tout ça, moi je n'ai pas forcément appris tout ça quoi. Et d'un côté ça me frustre, et d'un côté je voulais qu'il soit dans le même rythme que les autres enfants. Et du coup ça me fait peur.
De toute façon vous ne pourrez jamais tout apprendre à votre enfant, de toute manière, et puis même s'il n'y avait pas de télévision et qu'on éradiquait la télévision sur Terre, il y aura toujours des enseignants pour lui transmettre des choses. Donc pense que tant qu'à se culpabiliser, autant se culpabiliser au bon endroit. Je pense que vous devrez utiliser cette culpabilité pour essayer d'être un peu inventive, pour trouver des bons moments de partage à deux. Parce qu'un enfant il a besoin de présence et il a besoin d'interaction. Et je peux vous dire que le portable, ça vient en solution secondaire quand on n'a pas le choix. Et je me dis, si vous avez le temps de nous appeler et d'écouter Beurre FM, peut-être que vous pourriez, en raccrochant, passer un peu de temps avec lui.
Mais bien sûr, je rentre.
Quality time.
Merci.
Bon courage, Leïla.
Bon courage.
Merci. En tout cas, continuez d'écouter Beurre FM. Leïla, c'est une bonne addiction.
Il y a le Ramadan qui arrive. Il n'y a pas de soucis.
Bon, restez avec nous pendant le mois du Ramadan, Leïla, en tout cas.
Oui.
Merci. À bientôt. Donc, si vous aussi vous êtes concerné, 01 53 48 3000, posez vos questions. Ali Habibi et Maximilien Bachelard, 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Les écrans qui sont devenus la première occupation des enfants et des adolescents, mais disons-le aussi, des parents. On est toujours en train de faire la guerre aux enfants, mais des parents, c'est exactement la même chose. Accepter ou résister, that is the question. On en parle avec Ali Habibi et Maximilien Bachelard ce matin. Parce que de toute façon, la question, c'est pas de se dire, non, la technologie, c'est mauvais, il faut supprimer ou pas. Mais aujourd'hui, par exemple, quand les parents veulent punir, ils suppriment tout. Ils suppriment les écrans. Donc c'est la pire des punitions, c'est ça aujourd'hui.
T'as plus de console, quoi.
Voilà, t'as plus de console. Voilà. Tu seras privé de console.
Ça, c'est ce que demande le pédopsychiatre quand il est dépassé. Il dit à la mère, mais écoutez, débranchez-lui ça. Alors là, scandale, et on casse tout, quoi.
Bon, est-ce que ça constitue, si ça en constitue, une menace pour la santé des enfants, oui ou non?
Oui, ça, c'est pourvoyeur de troubles du sommeil, notamment. Alors, on a parlé des troubles attentionnels, on a parlé de différentes difficultés, notamment au niveau du langage, mais le sommeil également. On sait que les enfants qui regardent la télévision 2 heures par jour vont avoir un coucher plus tardif, une durée de sommeil diminuée et un lever plus tardif le week-end. Et on sait que plus l'enfant va regarder la télévision jeune, plus il risque d'avoir des problèmes de sommeil à l'âge adulte. Mmh. Alors pourquoi ? Parce que l'enfant, il n'est pas à l'écoute de son sommeil en fait. Il va recevoir tout un tas de signaux qui lui permettent de sentir qu'il va falloir lâcher prise et dormir. L'écran en fait va à l'inverse de ça. Vous êtes captivé, les yeux grands ouverts, et vous laissez passer tous les signaux. Mmh. Au moment où votre corps est en train de lâcher, il est 1h du matin, votre corps, il y a une partie de votre corps qui n'a pas reçu l'information qu'on allait dormir. D'où après les consultations multiples chez le psy, notamment en disant notre enfant il dort pas.
Donc, et s'il dort pas, il est fatigué ou alors il est énervé, il est suractif.
Après il y a les conséquences des troubles du sommeil. Mais
alors la télévision aussi, il y a d'autres éléments, ça va participer à la sédentarité qui va pas être bonne du tout pour pouvoir dormir. La sécrétion de mélatonine également va être modifiée parce que les exposition à la lumière d'écran, ça va affecter le rythme veille-sommeil. Mmh, mmh. Donc là, on est sur des composantes physiologiques et biologiques. Donc ça a un effet stimulant qui est extrêmement mauvais, et ça va venir retarder en fait l'horloge biologique. Donc c'est un peu contre-productif, de la même manière que moi je dis aux jeunes, il faut pas leur faire regarder la télévision avant de se coucher, de la même manière, il faut pas prendre de café, enfin en tout cas moi si je prends un café à 19h, je vais mal dormir en fait. Donc la première chose que je demande aux parents, c'est est-ce qu'il y a la télévision? Oui, bah alors il va falloir arrêter au moins 2-3 heures avant de dormir. Voilà, parce qu'on se rend pas compte, comme on voit l'enfant inerte devant l'écran, on se dit ça le calme, mais en fait ça excite. Vous voyez, c'est comme le tabac, c'est un psychostimulant. Ça stimule le corps. Alors on a l'impression que ça détend, mais c'est une sensation de détente, mais ça ne détend pas le corps. C'est la même chose pour la télévision.
Enfin, les enfants sont plus, ils sont plus devant la télévision, ils regardent des images.
Bah, la télévision, ils regardent le matin en général, mais tout ce qui est
ils sont devant des écrans. Ils enchaînent des vidéos.
Parce que la télévision, elle vous impose un programme, donc il relève de s'animer le matin, etc. Mais c'est imposé. Alors que la différence avec les téléphones, c'est pour ça que les enfants demandent les téléphones des parents ou les tablettes, c'est qu'ils choisissent leur propre programme et ils vont revoir le dessin animé qu'ils veulent voir. Donc ce choix-là qui est quand même, qui montre une pseudo-liberté, est beaucoup plus jouissif pour eux qu'un programme qui est imposé.
Il y a la question de l'attente derrière. Alors j'avais parlé d'autre chose, mais dans ce que tu dis, je rebondis. Je vais faire encore le vieux con avec ça, mais c'est vrai qu'avant on attendait des choses, maintenant on n'attend plus.
C'est ça.
Mais c'est la société qui est comme ça, c'est-à-dire que maintenant vous cliquez, vous recevez dans votre boîte aux lettres en 48 heures un truc, et puis si vous voulez revoir 19 fois une émission, vous pouvez, alors qu'avant il fallait attendre, donc il fallait imaginer, il fallait faire autre chose.
Avant il fallait attendre la semaine d'après, et vous n'aviez pas deux épisodes, donc la saison vous la tapiez pendant 24 semaines.
Ça existe toujours ça.
Non, maintenant vous avez au minimum, si c'est une série, deux épisodes d'affilée.
Non, vous avez les grosses. Bon, on va rentrer dans le débat des séries. Vous avez des grosses séries où c'est une seule fois par semaine. En fait, les séries c'est toujours une fois par semaine.
Ouais, enfin, vous pouvez aujourd'hui, vous attendez plus. Vous les avez en.
Oui.
Ou alors vous achetez le coffret et puis vous dormez pas pendant 3 jours. Voilà.
Donc mais, c'est vrai qu'il y a plus d'attente.
Voilà, ça pousse à la boulimie et donc l'attente qui fait rêver, qui fait un peu fantasmer, qui crée du désir, de l'envie,
ça disparaît
de plus en plus. Et c'est comme ça maintenant.
Pas de frustration.
C'est pour ça qu'on a du mal aujourd'hui à gérer les frustrations. Exactement. Et que les gens s'agace et s'énerve très vite. Si vous appelez le service commercial ou clientèle de votre opérateur ou de n'importe quoi et qu'on vous fait attendre quelques minutes, vous commencez déjà à vous agacer et vous énerver en disant j'ai attendu 3 minutes quand même.
3 minutes, hein.
Vous voyez ?
Ah, ça c'est Alice, hein, mais alors il y a un autre élément aussi, c'est qu'on commence à se demander s'il n'y a pas un impact des écrans sur l'explosion phénoménale dans le monde entier du nombre de myopes, parce qu'on comprend pas, c'est pire qu'une maladie ce truc là on a de plus en plus d'enfants avec des lunettes, et donc deux grosses hypothèses ressortent par rapport à ça: la lecture de près sur les écrans pourvoyeur de myopie en fait, et le manque d'exposition à la lumière naturelle. Donc là, quand je vous dis ça fait un peu animalier, mais pensez à ces jeunes qui sont devant un ordinateur pendant 6 heures et qui voient pas la lumière. Ça a un effet en fait, puisque l'œil a besoin d'être alimenté par le soleil en fait. Ça changera pas, de la même manière qu'un enfant a toujours besoin de ses parents, ça pourra pas être remplacé non plus par un écran. Voilà. Donc il y a des choses qu'on a voulu substituer mais qui substituent mal en fait,
Et il y a des conséquences, et là aujourd'hui on est en alerte par rapport aux conséquences qu'on découvre, et encore on en découvre certaines, peut-être qu'on en découvrira d'autres dans quelques temps qui seront peut-être pires que celles-ci, mais aussi pour rassurer quand même aussi les parents par rapport au changement. Vous avez plein de parents qui ont décidé de changer les choses et qui ont pas enlevé les écrans de la maison ou la télé, bref à l'époque c'était la télé qui posait problème un peu.
Il y a une vraie tendance
et c'est quelque chose d'après les retours qu'on peut voir de ces familles-là qui fonctionnent plutôt bien, c'est-à-dire que les enfants c'est-à-dire que l'idée reçue c'est si je lui enlève la télé ou l'écran, ou si j'enlève tous les écrans, quoi, pas tous les écrans de la maison parce que c'est compliqué, mais à l'époque c'était on enlevait la télé et il n'y avait plus la télé, donc on passait plus de temps avec l'enfant. Mais le fait de réduire, l'idée reçue que les parents ont, c'est que non, c'est pas possible. Il ne va pas survivre à ça. Ça peut pas bien se passer.
On va le débrancher.
C'est ça. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est de l'adaptation. C'est une nouvelle habitude qui prendra, comme tu disais tout à l'heure. Et on peut avoir des bonnes surprises par rapport à ça. Donc, il y a des moyens de changer.
Ça laisse place à l'imaginaire également. Parce que quand tu lis un livre et que tu vois le film, en fait, t'es déçu.
C'est ça.
De la même manière que moi, quand j'étais jeune, j'écoutais la radio. Maintenant, on peut pas s'empêcher de filmer la radio et de la mettre en direct à la télévision.
Et t'es déçu aussi.
Et donc, on est déçu, mais en tout cas, on rêve moins. Et je trouve que.
Ah, c'est sûr. Ouais. Moi, depuis que j'ai vu les vidéos avec Maximilien.
Eh ben, on rêve moins.
Avant, je l'écoutais à la la radio et maintenant je le vois
et on rêve beaucoup moins. Mais on est plus dans une réalité.
J'ai écouté des années.
Et puis après, il y a eu une déception.
Et après, je l'ai vu. Donc, non. Mais par contre, ça tue l'imaginaire.
Oui, mais c'est ça. Mais
c'est pas que t'es déçu, c'est que finalement, tu n'imagines plus.
Tu ne peux plus imaginer.
Ouais.
Et donc, ça tue le fantasme aussi.
Mais alors, vous réhabilitez, alors l'ennui, les vertus de l'ennui. Mais finalement, on est dans une société qui déteste l'ennui. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'être en train de vous vendre quelque chose pour que vous fassiez toujours quelque chose. Mais c'est quoi les vertus de l'ennui?
Non, mais déjà, je pense que de tout temps, à part peut-être certaines pensées, certaines civilisations qui valorisaient l'ennui, je pense que l'être humain n'aime pas l'ennui.
On n'aime pas le vide, et
exactement, donc c'est cette angoisse qui va venir s'accrocher justement à la place qu'on lui laisse qui va poser problème. Donc les humains n'aiment pas l'ennui de tout temps. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a le moyen de ne pas s'ennuyer ou le pseudo moyen de ne pas s'ennuyer, parce que c'est une illusion. Quand on reste tout à l'heure, tu parlais des enfants,
être seul, l'ennui, la solitude, tout ça.
Mais quand tu parlais des enfants qui ne perçoivent pas le temps et que quand ils vont justement être devant des écrans, ils vont pas voir les heures défiler, c'est la même chose pour les adultes. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous passez des heures et que vous rendez même pas compte que des heures sont passées, alors que vous à la fin vous faites le bilan, vous n'avez pas fait grand chose.
Et voilà, c'est ce qu'on se dit après. À quoi ça a servi tout ce temps gâché?
Ça a servi à combler. Faire, donc la différence, c'est que je pense que les humains ont toujours détesté l'ennui. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a le moyen de se faire croire qu'on s'ennuie pas.
Et à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit du monde, on peut facilement, en appuyant sur un bouton, avoir quelqu'un qui nous parle, une présence, quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans le silence, qu'on n'est pas dans le silence de notre existence aussi. Et c'est vrai que quand on a cet espace, une fois qu'on a dépassé un peu une angoisse, on peut commencer à découvrir des choses, quoi.
Bon. Et quand vous occupez des gens, ils peuvent plus réfléchir. Et là, ça devient le vrai problème, et c'est dont on parlait tout à l'heure par rapport aux enfants, c'est qu'on les empêche de réfléchir et d'apprendre à réfléchir au fond. Parce qu'on les occupe toujours, et on les comble toujours soit du manque ou soit du vide, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre, s'écouter ou commencer à réfléchir ou à penser ou à fantasmer, tel on parlait justement de l'imaginaire. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui ne savent pas réfléchir ou qui ne savent pas penser. Et c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la frustration. Et des adultes aussi, d'ailleurs, on parle de l'enfant, mais l'adulte, c'est la même chose. L'adulte, c'est la même chose. Des adultes qui n'arrivent pas à rester seuls quelques minutes il y a certaines personnes qui sont. Et c'est pour ça que, par rapport aux écrans, les jeux vidéo, etc., c'est pas tant le jeu vidéo qui pose problème, c'est ce qui peut se cacher derrière qui va poser problème. Si l'enfant joue des heures devant les jeux vidéo, alors des heures, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais s'il joue aux jeux vidéo assez souvent, c'est pas forcément problématique. Ce qui peut être problématique, c'est si l'enfant il a une phobie sociale, si l'enfant justement il a un problème psychologique derrière qui est caché ou sous-jacent. Les vraies problématiques, elles se trouvent là, et le jeu vidéo va venir juste, ou l'écran va venir juste camoufler ça.
Après, la différence quand même entre l'enfant et l'adulte, c'est que ce que j'appelle, à chaque fois je réutilise le terme, c'est une histoire de câblage émotionnel. C'est-à-dire que quand on est vraiment né dedans, qu'à un an vous aviez déjà le portable de vos parents dans la main et vous étiez sur les réseaux sociaux ou en train de pianoter et avoir des vidéos, il va pas se créer la même dépendance et les mêmes besoins. Ouais. C'est-à-dire qu'un adulte va temporairement avoir besoin de s'appuyer sur quelque chose, alors que l'enfant, lui, s'est toujours appuyé là-dessus. Donc on a des grands anxieux. Voilà, exactement. Donc on dit toujours que avant c'était mieux, mais là, clairement, depuis quelques années, on sent bien qu'à différents niveaux dans la société, il y a des difficultés. J'avais une collègue qui est intervenue à la table ronde là, à Gatin en avril, sur la parentalité, qui est ostéopathe, s'appelle Marie Pache, à qui je fais un coucou, là, je crois qu'elle m'écoute, et qui nous disait
dans cette émission, il devait, c'était,
oui, je devais citer
il
a, Marie
il, devait, il devait citer il Marie Pache, et, il l'a fait. Donc, là,
bonjour Marie.
Il voyait qu'il arrivait à la fin de l'émission.
Bonjour, non,
il savait qu'il y avait une terrible pression.
Et si nous disons bonjour, nous, à Marie Pache, je crois qu'il gagne encore plus.
Et je devais aussi dire bonjour à Sébastien et Chloé, mais ça, c'est autre chose.
Bien.
Voilà. Mais
donc, Marie Pache, ostéopathe.
Elle nous dit exactement que, elle constate, qu'est-ce qu'elle constate? Qu'elle commence à avoir des profils un peu particuliers. Des personnes qui, à 30 ans, arrivent avec des difficultés posturales qu'elle n'a jamais vues et qu'on va jamais pouvoir réduire, en fait. Et tout simplement parce que les postures qu'on a sur nos sièges sont plus les mêmes qu'on a avant. La posture que je prends comme ça avec le portable va créer des difficultés. Mmh. Et elle nous explique finalement qu'elle a de plus en plus de jeunes patients qui se retrouvent avec des difficultés qu'elle aura dû voir beaucoup plus tard, en fait. Donc oui, je pense que ça vient profondément modifier des choses dans la société.
Bien, alors les parents qui nous écoutent aujourd'hui, une fois qu'ils ont entendu ça, on va pas revenir, hein. Avant, c'est fini, l'avancée elle est inéluctable, de toute façon plus ça va aller, puis il va y avoir des écrans qui vont se déplacer de plus en plus avec nous. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des règles qui permettent d'avoir, on va dire, une consommation raisonnée?
Bah, on peut peut-être faire un truc tout bête et méchant, mais qui peut être drôle. C'est vous mettez du scotch rouge par terre et vous faites une zone de connexion. Vous pouvez dire aussi à l'étage, il n'y a pas de connexion, ou alors juste au rez-de-chaussée, ou alors vous pouvez faire des horaires. Souvent, on le fait pendant les vacances. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que les parents sont fatigués et puis ils disent aux gosses, écoutez, il fait chaud, là, sortez, et puis vous regarderez la télévision ce soir. Et là, les enfants sont contents comme tout de même, hein, parce qu'ils arrivent à jouer. Donc, je pense qu'il faut pouvoir avoir un peu cette liberté, cette latitude. Moi, j'ai pas de prescription concrète.
Il n'y a pas de méthode toute faite.
Ben malheureusement non, et puis encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à trouver du plaisir à être avec votre enfant qui commence à avoir du plaisir à construire à partir de pas grand chose, je pense que vous gagnez à ce moment-là.
On fait pas des enfants pour les coller dans les tablettes, hein.
Oh Philippe, mais c'est vrai, vous avez raison.
Mais c'est facile à dire, ça a aucun sens, hein.
Non, mais je pense pas que les gens qui ont cette problématique font les enfants pour les coller devant les tablettes. C'est qu'ils ont des enfants, ils essaient de s'en occuper au mieux. La tablette vient comme une facilité qui répond à des difficultés ou juste à des facilités. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez, voilà, c'est inéluctable. On est soit dans le fait de se soumettre et de rentrer dedans et de fermer les yeux, ou de résister un peu. Et là, l'appel, c'est de résister un peu et de se dire, voilà, peut-être que mettre des règles, mettre un cadre. Après, c'est pour ça que c'est délicat, parce que chacun a un cadre et un contexte différent, mais mettre des règles, mettre des cadres, mettre une sécurité, protéger.
Parce que le tout ou rien, ça marche pas, de toute façon.
Après, le tout ou rien, ça dépend des gens, encore une fois, mais c'est juste de vraiment voir par rapport à son enfant, par rapport à l'âge, par rapport aux capacités qu'on a, et aux réelles capacités, parce que souvent on se dit, mais j'ai pas le choix, alors qu'on a certains choix qu'on peut faire, et on a une marge quand même.
Dans l'immédiat, on pourra pas tout changer, mais peut-être qu'au bout de quelques temps,
on
pourra.
Progressivement.
Le problème, c'est que si vous mettez des limites trop rigides, déjà, l'enfant va pas comprendre, parce que l'écran, habituellement, il vient de papa-maman. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas aller s'acheter son truc. Donc, on lui a attendu quelque chose. Et si, en plus, on l'utilise soi-même en tant que parent, ça devient compliqué. Si vous commencez à dire non d'un seul coup, ça va passer pour de l'autoritarisme. Et bien évidemment, l'enfant va se braquer, puisque vous l'avez laissé faire ce qu'il voulait, et puis après, vous voulez plus.
Vous changez les règles en cours de partie.
Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez dire, écoute, on va changer un peu les règles, on va essayer de faire un peu autrement, on va faire ça avec toi, et nous aussi, papa, maman, il faudrait qu'on fasse un peu différemment, on va laisser nos portables là, et puis on les reprendra dans une heure, quoi.
Et pas comme une punition, mais de vendre cette évolution ou ce changement comme quelque chose de productif, de bon pour nous tous, et que voilà, on tend vers ce qui est encore mieux, et de le vendre peut-être dans ce sens-là, c'est plus agréable pour l'enfant de l'entendre ainsi que de le voir comme une sanction qui tombe.
Il y a eu ces histoires de portables à l'école, vous vous souvenez, il y a quelques semaines ou quelques mois. L'actualité passe tellement vite qu'on oublie, mais en fait, on avait demandé à ce que les portables soient interdits. Et en fait, ce qui est drôle, si vous voyez la polémique, c'est que les parents étaient plus résistants que les enfants. Pourquoi ? Parce que les parents avaient la possibilité de contrôler où était leur enfant. Puisque la société moderne...
On a fait croire aux parents que finalement c'était plus simple pour des raisons de sécurité que les enfants ont des portables.
Parce que la société moderne nous fait croire qu'il y a beaucoup plus de tueurs et de violeurs qu'avant, ce qui est statistiquement faux. Oui. Mais quand il y a quelque chose de dramatique et qu'on en parle pendant 4 jours et que tout le monde hurle et pleure à la télé, on se dit mais ce monde est de l'insécurité permanente. Donc évidemment, votre enfant avant... Moi par exemple, mes parents ne savaient pas exactement où j'étais quand je rentrais, j'avais pas de portable et puis je me débrouillais, quoi. Et sauf que maintenant c'est plus concevable non plus. Donc la question du lien va dans les deux sens, et donc c'est très drôle parce que les enfants étaient plus à même d'accepter. Et il faut savoir qu'au Danemark et en Angleterre, on a interdit le portable en cours. On a fait cette expérience dans certaines écoles et on a augmentation de la motivation, de la cohésion de groupe, et les résultats sont meilleurs.
En cours, mais ça veut dire que
en cours
ou à l'école?
En cours.
En cours,
pendant le cours. Et donc c'est intéressant parce que
évident. Hein.
Bah oui, mais ce qui paraît évident, mais c'est pas évident du tout. Là-bas, dans ces pays-là, non, pas forcément. Mais donc, on se dit, bon, bah, si c'est à peu près les mêmes enfants que les nôtres, a priori, bah là, on a tout de suite une conséquence directe. Et donc, après, évidemment, on pourrait dire, ah bah, mon enfant n'est pas motivé. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il a dans sa trousse? Il a un portable, il joue à Candy Crush toute la journée. Donc, il s'en fout complètement. À partir du moment où il comprend pas quelque chose, il décroche et il touche à son portable. Voilà.
Ali Habibi, Maximilien Bachelard, merci d'avoir été avec nous. Bon voyage, Ali.
Merci, Philippe.
Pensez à nous.
Je penserai à vous.
Bien. Et puis, eh ben demain, on est là. C'est le 1er mai, mais c'est la fête du travail. Et on travaille avec vous. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
À votre santé. À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM.